première, c'est dans 2 Samuel 5. Je vais donner quelques mots d'introduction. 2 Samuel 5, versets 1 à 3. Quand David a été oint par le prophète Samuel comme roi d'Israël, c'est là que les ennuis ont commencé pour lui. Parce qu'il y en avait déjà un en place qui s'appelait Saul. Et le roi en place n'a pas entendu ça d'une bonne oreille que David soit roi. Donc il a essayé de l'éliminer. David a vécu pendant des années en se cachant comme un rat dans les trous, dans les grottes des montagnes. Plusieurs fois, il a failli mourir. Mais David a prouvé qu'il était vraiment capable de faire l'union des 12 tribus. Parce que lui, il est de la tribu de Juda. Il a prouvé en refusant de porter la main lui-même sur le roi Saül, il aurait pu tuer 2 fois. Il a refusé de le faire. Il s'est confié à Dieu. Ainsi, il a respecté cette tribu dont vient le roi Saül, la tribu de Benjamin, qui fait le lien avec les 10 tribus du Nord. Et là, le texte qu'on va écouter, c'est que les 12 tribus sont venues demander à David d'être leur roi.
Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : Nous voici, nous sommes tes os et ta chair. Il y a longtemps déjà, quand Saül était notre roi, c'était toi qui faisais sortir et rentrer Israël. Or, le Seigneur t'a dit : C'est toi qui feras paître Israël, mon peuple, et c'est toi qui seras le chef d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent retrouver le roi à Hébron, et le roi David conclut en leur faveur une alliance à Hébron devant le Seigneur, et ils oignirent David comme roi d'Israël.
Colossiens, au chapitre 1, versets 12 à 20.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés. Nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Les êtres visibles comme les invisibles, trônes et souverainetés, autorités et pouvoirs. Tout est créé par lui et pour lui. Et il est lui devant tout, tout est maintenant en lui. Et il est lui la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix.
L'Évangile se trouve dans Luc, Luc 23. Luc 23, 35 à 43. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Il disait, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre et dire, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. C'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs pendus l'insultait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant, tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui, il n'a rien fait d'inconvenant. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, est-ce que nous acceptons d'entendre ce texte ? Nous sommes là au cœur de l'Évangile. Et précisément, c'est ce cœur de l'Évangile qui est aujourd'hui refusé, rejeté par le plus grand nombre, ici en France, ici en Europe. Je l'ai constaté. Récemment, dans une réunion de catéchètes, je dis bien de catéchètes, je disais cette phrase qui est bien connue. Jésus est mort pour nos péchés. Une catéchète a dit alors qu'elle l'avait discuter avec une amie protestante, et celle-ci avait quitté l'église, justement à cause de cette phrase, Jésus est mort pour nos péchés. Elle trouvait cette phrase terriblement culpabilisante et impossible à écouter. Un autre exemple vécu. Il y a quelques mois, je suis allé à l'enterrement de mon parrain, un croyant. Après l'enterrement, comme ça se fait en Alsace, il y avait du gâteau, du café. Et j'ai discuté avec son meilleur ami, l'ami de toute sa vie. Cet homme, donc âgé, a fait des études de théologie protestante. Puis, pas directement pasteur, mais il faisait du catéchisme. On est payé en Alsace-Lorraine pour le catéchisme, par l'État. Il faisait du catéchisme et un jour, ayant prononcé cette phrase, Jésus est mort pour nos péchés, il a vu sur le visage une jeune fille, une catéchumène, une réaction de surprise, d'incompréhension. Alors il s'est dit, c'est brutal, effectivement, comme message. Il a réfléchi et il a définitivement, pour toute sa vie, il est âgé maintenant. Il a rejeté la Bible définitivement. J'ai dit, mais tu crois en quoi? Il y a des philosophies et des enseignements de sagesse qui sont moins violents. C'est un homme qui veut faire du bien, n'est-ce pas? Je ne parle pas là des gens qui s'opposent à l'évangile comme ça, parce qu'ils sont vraiment méchants. Mais là, on voit deux exemples de personnes qui refusent le cœur de l'évangile aujourd'hui. Un autre exemple. Dans l'Église réformée, il y a un pasteur, un théologien connu, je ne dirai pas son nom, la plupart des protestants ont des livres de ce pasteur dans leur bibliothèque, car il a beaucoup écrit. Dans un de ses livres, voilà ce qu'il écrit. Je veux que vous compreniez que Dieu ne nous aime pas à cause de la mort de Jésus, mais malgré la mort de Jésus. Il croyait certainement bien faire en tournant nos regards vers ce Dieu qui nous aime, même si nous l'avons peiné en tuant son Fils, qui nous aime, et que ce n'est pas la mort de Jésus qui sauve. Il l'a écrit dans son livre. C'est justement là le pire des mensonges, quand il y a une demi-vérité. Car c'est vrai que Dieu nous aime, même si nous avons tué son Fils, c'est vrai aussi. Mais c'est une demi-vérité. C'est le pire des mensonges, car il paraît crédible. Or, l'Évangile nous dit que tout vient de la mort de Jésus. Le salut pour nous vient de la mort de Jésus. Et Luc écrit de façon à ce que ce soit bien clair. L'apôtre Paul, lui aussi, dans les textes que nous avons écoutés en Colossiens, il l'exprime clairement. C'est la mort de Jésus, la source du salut. Et l'évangile de Luc que nous avons écouté insiste là-dessus. Tout le monde lui dit à Jésus, sur la croix, sauve-toi. Tout le monde lui dit ça. Sauve-toi. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Christ, le Messie, l'élu de Dieu. Tous lui ont dit ça. Tous. Les autorités politiques ou religieuses, c'était un peu mélangé à l'époque en Israël. Les autorités politiques, les soldats et le malfaiteur pendu comme Jésus. Nous avons donc trois fois dans le texte, en si peu de versets, trois fois ce conseil. Mais descends ! Sauve-toi toi-même ! Et implicitement, ces gens expriment ce qui est au fond de notre cœur. Nous serions prêts à croire en Dieu, à croire en Jésus, s'il s'était sauvé lui-même. Ça, c'est ce qui est au fond du cœur humain. Je le sais bien, car c'est aussi au fond de mon cœur. Et si je vous cite des personnes qui refusent aujourd'hui la mort de Jésus, que ce soit exprimé comme étant la source du salut, je sais que c'est quelque chose qui est en moi. Et que l'Évangile vient dire le contraire de ce que moi je pense. Ces personnes qui disent à Jésus « Sauve-toi toi-même !» Implicitement, elles lui disent « Mais... alors, on est prêt à croire en toi. Tu as fait beaucoup de miracles. Fais-en encore un. Fais-en encore un pour toi maintenant. Fais-le. Alors, on croira. » Le malfaiteur le dit explicitement, « Sauve-toi toi-même et nous avec. » C'est au verset 39. « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Voilà le Dieu que nous pouvons croire. Mais l'Évangile ne nous présente pas un Dieu que nous pouvons croire. Il nous présente Jésus mort. Et la Sainte Cène est un rappel de de la mort de Jésus, qu'il est vraiment mort, il n'est plus visible aujourd'hui autrement que dans le pain et le vin. Mais il est vivant. Mais il est mort. Il est vivant. Le scandale n'est pas moderne. Aujourd'hui, on est scandalisé par la mort de Jésus, mais on l'était déjà il y a 2000 ans. Ceux qui, dans l'Empire romain, écoutaient les apôtres, ils étaient scandalisés, mais ils n'ont pas changé leur message. Ils ont au contraire insisté, plus les gens étaient scandalisés et plus ils insistaient sur la mort de Jésus. Car il n'y a pas de salut ailleurs. Et ce scandale est encore doublé, si on pouvait dire, encore surchargé par la façon dont Luc parle au verset 29, au verset 39, l'un des malfaiteurs pendu. La façon dont Luc parle de la croix, il utilise le mot « pendu ». C'est jamais traduit correctement dans la plupart des traductions, peut-être Darby. Luc, chapitre 23, verset 39, l'un des malfaiteurs pendu. Pourquoi tu utilises ce mot pendu? Car tout juif qui entend ça, il se rappelle tout de suite le verset de Deutéronome 21, 23, celui qui est pendu est malédiction. Malédiction de Dieu. Vous voyez, on ne nous épargne rien pour nous donner le cœur de l'Évangile parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que l'homme reçoive le Saint-Esprit, qu'il entende la parole de Dieu qui va en l'encontre même de la façon dont nous pourrions, pensons-nous, croire en Dieu. Écoutons maintenant l'Épître que Marie-Antoinette nous a lu, Colossiens 1, versets 12 à 20. Ce chapitre 1 de Colossiens est presque entièrement une prière. C'est ce que nous avons entendu, c'est un bout d'une prière que Paul fait pour les chrétiens. Je vous recommande de lire l'ensemble de cette prière. Paul est plein de foi et d'espérance pour les chrétiens. Il y a un avenir glorieux pour les chrétiens. Il a une espérance magnifique pour eux. Et puis il connaît le Christ d'une manière éblouissante. Rien d'assez beau ne peut être dit, rien d'assez grand ne peut être dit de Jésus-Christ. Par lui ont été créées toutes choses. Il est le commencement. Commencement, c'est le premier mot de la Bible. Commencement, premier-né d'entre les morts, ça c'est la résurrection. Afin qu'en toute chose, il tienne lui la première place. Car en lui toute la plénitude s'est plu à habiter. Vous voyez, il n'y a pas de mot assez fort pour parler de Jésus-Christ. Mais comment Paul connaît-il le Christ de cette manière? Comment connaît-il le Christ de cette manière? Et comment peut-il être si certain que notre avenir est si merveilleux? Il n'y a pas de mystère. Verset 20. Dieu a fait la paix par le sang de la croix. Il précise par lui, c'est-à-dire Jésus. Dieu a fait la paix par le sang de la croix. Il associe deux mots, sang et croix. Le sang de la croix. Par lui, Jésus. Plus loin, verset 21, toujours dans Colossiens 1. Nous, on était ennemis, on était contre Dieu. Et Dieu, comment il a fait pour qu'on devienne ses amis?
Comment il a réussi à changer une nature aussi hostile?
Voilà la réponse. Il vous a réconcilié dans le corps de sa chair. Bon, on comprend le corps de sa chair, la nature humaine de Jésus. Ok, on comprend. Et précise, il ajoute, par sa mort. Encore une fois, les apôtres, mais ça c'est juste un exemple, c'est celui de Paul, mais tous insistent sur la mort de Jésus. C'est par elle que s'est opérée notre réconciliation avec Dieu, notre nouvelle naissance. Par elle que nous recevons l'amour de Dieu. Nous avons, au début de ce culte, entendu le psaume 122. Ça commence par le mot « Je me réjouis ». Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Pourquoi la maison du Seigneur est-elle un lieu de joie ? Oui, la maison du Seigneur est vraiment un lieu de joie. La présence de Dieu est un lieu de joie. Un lieu où on est bien. Et comment on y entre? J'ai remarqué que dans le psaume 122, en l'écoutant ce matin encore, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, avant d'entrer où vous arrêtez. Le pas suivant, vous allez changer de lieu. Vous allez changer. Le pas suivant, quand vous êtes dedans, dans Jérusalem, c'est pas pareil que vous étiez avant. Nos pas s'arrêtent dans tes portes. Et quand vous entrerez dans la Jérusalem d'en haut, qui est notre patrie, on va s'arrêter. Nos pieds vont s'arrêter. À l'entrée, comment vous allez entrer? Comment je vais entrer, moi? Pécheur. Moi, pécheur, comment je vais entrer dans la Jérusalem céleste? Mes pieds vont s'arrêter dans la porte. Et je vais entrer comment? Luc nous donne la réponse. Dans cet évangile, Luc 23, verset 45. Tout de suite, quand Jésus a expiré, donc quand il est mort, verset 45, on nous dit, le soleil ayant disparu, alors, le voile du sanctuaire se déchira au milieu. Le voile du sanctuaire se déchira au milieu. Voilà, la mort de Jésus me permet d'entrer. Le voile est déchiré au milieu, c'est Dieu qui a déchiré le voile pour que j'entre dans sa présence. Sans la mort de Jésus, je ne peux pas. Et c'est ce que Jésus promet immédiatement à ce malfaiteur qui lui dit « Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le verset 43. Récemment, je vous ai dit que je suis la même pâte humaine que tous ceux qui se scandalisent de la mort de Jésus, mais je ne changerai pas l'évangile. Ni pour moi, ni pour vous. C'est toujours un scandale, la mort de Jésus. Mais c'est la parole de Dieu, la seule qui nous sauve. La seule qui peut sauver le monde aujourd'hui. En priant encore à ce sujet, pendant un temps de louange, devant ce scandale que je sens en moi aussi quand je pense à cette mort de Jésus, alors, le Seigneur m'a dit, et c'est une question, Est-ce que parce que je me suis souillé avec tes péchés, je te parais moins beau? Arrêtons de donner des conseils à Dieu sur la manière de nous sauver. Arrêtons de juger aussi bien les autres que nous-mêmes et recevons ce jugement de Dieu à la croix. Ce jugement, c'est que la mort de Jésus est notre salut. Donc, j'ai demandé à ma femme si elle pouvait bien nous lire commentaire de ce texte par un père de l'Église qui s'appelle Saint Jean Chrysostome, qui a été évêque de Constantinople au 4e siècle.
Il dit ceci: le paradis fermé depuis des milliers d'années, la croix nous l'a ouvert aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui que Dieu y a introduit le malfaiteur. Il accomplit ainsi deux merveilles. Il ouvre le paradis et il y fait entrer un voleur. Aujourd'hui, notre Dieu nous a rendu notre antique patrie. Aujourd'hui, il nous a ramenés dans la cité paternelle. Aujourd'hui, il a ouvert sa maison à l'humanité dans son ensemble. Aujourd'hui, dit-il, tu seras avec moi dans le paradis. Que dis-tu là, Seigneur ? Tu es crucifié, attaché avec des clous, et tu promets le paradis ? Oui, afin que tu apprennes quelle est ma puissance sur la croix. C'était en effet un spectacle cruel, et pour détourner notre attention de cet aspect de la croix et nous faire connaître la puissance du crucifié, Jésus accomplit sur la croix même ce miracle qui, plus que tout autre, témoignait de sa puissance. Car ce n'est pas en ressuscitant un mort, en commandant à la mer et au vent, en chassant des démons, mais c'est crucifié, attaché par des clous, couvert d'insultes, de crachats, de railleries, d'outrages, qu'il a pu changer le mauvais état d'esprit du voleur, afin que nous voyions les deux aspects de sa puissance. Il ébranla toute la création, il fendit les rochers, il attira l'âme du voleur plus dure que la pierre. Il lui accorda son estime et lui dit: « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Sans doute, un chérubin gardait le paradis, mais il est le maître des chérubins. Un glaive de feu tournoyait à l'entrée, mais il a tout pouvoir sur le feu et sur la terre, sur la vie et sur la mort. Certes, aucun roi ne permettrait jamais à un voleur ou à un autre de ses sujets de s'asseoir avec lui lorsqu'il fait son entrée dans une ville. Mais le Christ l'a fait. Quand il entre dans sa sainte patrie, il y introduit un voleur avec lui. En agissant ainsi, il ne méprise pas le paradis. Il ne le déshonore pas par la présence d'un voleur. Bien au contraire, il honore le paradis. Car c'est une gloire pour le paradis d'avoir un maître qui puisse rendre un voleur digne des délices qu'on y goûte. De même, lorsqu'il introduit les publicains et les prostituées dans le royaume des cieux, ce n'est pas au mépris de celui-ci, mais plutôt pour son honneur, car il lui montre que le maître du royaume des cieux est assez fort pour rendre des prostituées et des publicains estimables au point d'être digne d'un tel honneur et d'un tel don. Nous admirons un médecin d'autant plus que nous le voyons guérir des hommes souffrant de maladies réputées incurables et les rendre à la santé. Il est donc juste d'admirer le Christ lorsqu'il guérit des blessures inguérissables et qu'il ramène le publicain et la prostituée à une telle santé spirituelle qu'il se montre digne du ciel. Amen.
Amen.